Journal du Dr Seward, 5 novembre. L'aurore nous a révélé les tziganes s'éloignant de la rivière et conduisant leur charrette à vive allure en l'entourant de très près. Il tombe une neige légère et l'air est étrangement excitant. C'est peut-être tout subjectif, mais notre propre découragement a quelque chose de bizarre. J'entends au loin hurler des loups. La neige les fait descendre des montagnes et ils nous menacent de tous côtés. Les chevaux vont être prêts, et nous allons partir. Au bout de notre chevauchée, il y a la mort de quelqu'un. Dieu seul sait qui, où, quand et comment. Mémorandum du docteur Van Helsing, 5 novembre, après-midi. Du moins suis-je sauf, et j'en remercie Dieu en tout cas, bien que l'épreuve ait été terrible. Laissant Madame Mina endormie à l'intérieur du cercle sacré, je m'acheminai vers le château. J'avais pris à Veresti un marteau de forgeron et l'avais mis dans la voiture. Il me vint à point. Toutes les portes étaient entrouvertes, mais je les arrachais à leurs gonds rouillés, de peur que quelque malintentionné ou quelque accident fâcheux les refermât et m'empêchât de ressortir. J'étais instruit par l'amère expérience de Jonathan. Les termes de son journal me revenaient à l'esprit pour me guider vers l'antique chapelle où je savais que ma tâche m'attendait. L'air était étouffant, comme traversé d'une fumée de soufre qui, par moments, me donnait le vertige. Était-ce mes oreilles qui bourdonnaient ou des loups qui hurlaient au loin? La pensée de ma chère Madame Mina me mit alors dans une détresse indicible. J'étais tenu par la tenaille du dilemme. Je n'avais pas osé l'amener ici. Je l'avais laissé à l'abri du vampire dans le cercle sacré. Mais les loups. Je décidai que mon devoir était ici, et que pour les loups, devrions nous incliner si telle était la volonté de Dieu. De toute manière, il fallait choisir entre la mort et la liberté, et j'avais choisi pour ma jeune amie. En ce qui me concernait, le choix était aisé. Le tombeau du vampire me paraissait pire que la gueule du loup. Je poursuivis donc mon entreprise. Je savais que j'avais au moins 3 sépulcres à découvrir, 3 sépulcres habités, et je me mis en devoir de chercher tant que j'en découvre un. Elle était étendue dans son sommeil de vampire, si pleine de vie et de voluptueuse beauté que je frissonnais comme si je venais de perpétrer un crime. Ah, je n'en doute pas. Autrefois, quand existaient de telles choses, plus d'un homme prêt à accomplir une tâche analogue à la mienne sentit finalement le cœur, puis les nerfs lui manquaient. Et il dut attendre, 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 si bien que la beauté fascinante de la jeune non-morte finit par l'hypnotiser, et il s'attarde, et le soleil se couche, et le vampire a cessé de dormir, et la jolie femme ouvre ses beaux yeux qui sont pleins d'amour, la bouche voluptueuse s'offre à un baiser, et l'homme est faible. Une victime de plus est promise au bercail du vampire, une de plus pour grossir l'armée sinistre, effrayante, des non-morts. Oui, c'est bien une sorte de fascination qu'a exercée sur moi la seule vue de cette femme, étendue là, dans une tombe usée par le temps et lourde de la poussière des siècles. Et malgré cette horrible odeur qui doit être celle des repères du comte, oui, j'étais ému, moi, Van Helsing, malgré ma décision prise et ma haine si bien motivée. Possédé d'un tel désir d'ajourner mon projet qu'il paralysait mes facultés et entravait jusqu'à mon âme. Était-ce le manque de sommeil normal et l'étrange touffeur de l'air qui commençait à avoir raison de moi? Je me sentais, à coup sûr, sombré dans le sommeil éveillé de celui que domine une douce fascination, quand soudain me parvint à travers l'atmosphère pacifiée par la neige une plainte longue et basse, si remplie de souffrances pitoyables que je me ressaisis comme à l'appel d'un clairon, car la voix que j'avais entendue était celle de ma chère Madame Mina. Alors je rassemblai mes forces pour en finir avec l'horrible tâche et en décelant des pierres tombales, je découvris une autre des 3 sœurs, celle qui avait aussi les cheveux sombres. Je n'osais pas m'attarder à la contempler comme j'avais fait pour la première, craignant de me sentir de nouveau envoûté. Je poursuivis ma recherche jusqu'à ce que j'eusse trouvé, sous une tombe large, élevée, destinée, semblait-il, à un être très aimé, cette autre sœur blonde que moi aussi, après Jonathan, j'avais vu se dégager du brouillard. Elle était si charmante, d'une beauté si radieuse, si exquisement voluptueuse, que je sentis le profond instinct masculin qui nous pousse à chérir, à protéger un être de l'autre sexe, remplir ma tête du vertige d'une nouvelle émotion. Mais, grâce à Dieu, la plainte venue de l'âme de ma chère Madame Mina n'était pas éteinte dans mes oreilles, et avant que l'envoûtement agît davantage sur moi, je m'étais raidi pour mon affreux travail. Bientôt, j'eus exploré toutes les tombes de la chapelle, me semblait-il, et comme nous n'avions vu autour de nous, dans la nuit, que trois fantômes de non-morts, je supposai qu'il n'en subsistait pas davantage. Mais il restait un grand sépulcre, plus seigneurial que tous les autres, immense et de nobles proportions, portant un seul nom, Dracula. C'était donc là que le roi vampire abritait sa non-mort. Telle était la demeure à laquelle tant d'autres êtres étaient destinés. Le fait qu'elle était vide confirmait ce que je savais déjà, avant de commencer à rendre ces femmes à leur moi trépassé, sinistre ouvrage, je déposai dans le tombeau de Dracula des parcelles de la Sainte Hostie et ainsi l'enchassai, non mort, pour toujours. Alors devait commencer ce rôle effrayant devant lequel je reculais. N'eussais-je eu qu'un seul coup à frapper, c'eût été relativement aisé, mais trois. Recommencer deux fois encore cet acte d'horreur. Car si ça avait été affreux pour la douce Miss Lucy, que serait-ce quand il s'agirait de ces êtres étranges qui survivaient depuis des siècles et à qui la fuite du temps avait donné un surcroît d'énergie et qui, si elle le pouvait, défendrait leur absurde vie. Oh, mon ami John, n'était-ce pas la tâche d'un boucher? Si je ne m'étais pas raidi par la pensée d'une autre mort et d'une vie prise dans un tel étau d'épouvante, jamais je n'aurais pu aller jusqu'au bout. J'en tremble encore. Et cependant, jusqu'à ce que tout fût terminé, mes nerfs, Dieu soit loué, tinrent bon. J'avais vu l'apaisement du premier visage, une félicité qui se répandait fugitivement sur lui juste avant la dissolution suprême, comme pour attester que l'âme avait été conquise. Sans cela, jamais je n'aurais pu poursuivre cette boucherie. Je n'aurais pu endurer l'horrible crissement du pieu quand il pénétrait dans les chairs, ni le sursaut de la beauté torturée, les lèvres couvertes d'une écume sanglante. J'aurais fui, épouvanté, laissant l'œuvre inachevée, mais elle est finie. Ces pauvres âmes, je puis maintenant les plaindre et pleurer en pensant à chacune d'elles telle que je l'ai vue pacifiée dans le plein sommeil de la mort une seconde avant de disparaître. Oui, cher John, il en fut ainsi au moment même où mon couteau eut coupé chaque tête avant que le corps commençât à se réduire pour retourner à sa poussière originelle, comme si la mort, ajournée depuis des siècles, avait enfin affirmé ses droits en disant hautement « Me voici ». Avant de quitter le château, j'en assurai les issues de façon que le comte n'y puisse plus jamais rentrer non mort. Peu après que je fus revenu dans le cercle où dormait Madame Mina, elle se réveilla et s'écria en me voyant d'une voix douloureuse que j'en avais trop endurée. « Venez, » dit-elle, « quittons cet affreux endroit. Allons rejoindre mon mari qui, je le sais, se dirige vers nous. » Elle était amaigrie, pâle, épuisée, mais son regard était pur et brillant. Je fus heureux de constater sa pâleur et son malaise, tant mon esprit était obsédé par l'horreur toute récente du sommeil vermeil des vampires. C'est ainsi que, plein de confiance et d'espoir, mais d'inquiétude aussi, nous partîmes vers l'Est pour retrouver nos amis. Et lui, lui dont Madame Mina affirme qu'elle sait qu'il vient à notre rencontre.
Journal de Mina Harker, 6 novembre. L'après-midi était avancé quand le professeur et moi nous partîmes vers l'Est, d'où je savais que Jonathan venait vers nous. Nous n'allions pas vite, quoique le chemin descendît rapidement la colline, car nous devions emporter de lourdes couvertures, n'osant pas envisager de rester sans protection dans le froid et la neige. Il nous fallait aussi nous charger d'une partie de nos provisions. Nous étions en effet au milieu d'une solitude désolée, et dans la mesure où nous pouvions percer le rideau de la neige, nous ne découvrions pas la moindre habitation. Nous n'avions pas fait 1 mille que la difficulté de la marche me força à m'asseoir pour me reposer. Derrière nous, la ligne claire du château de Dracula se détachait sur l'horizon. Nous étions si bien descendus de la colline qui le supporte qu'il semblait dominer de beaucoup les Carpates. Nous le découvrions dans toute sa grandeur, perché à 1000 pieds sur le sommet d'un pic, et, semblait-il, un abîme s'étendait entre lui et l'escarpement de la montagne voisine. L'endroit avait quelque chose de sauvage, d'insensé. Nous entendions le lointain hurlement des loups. Ils étaient encore à bonne distance, mais leurs cris, bien qu'étouffés par la neige tombante, étaient pleins de terreur. À voir le docteur Van Helsing se mettre en quête, je pouvais comprendre qu'il cherchait un point stratégique où une attaque nous trouverait moins exposés. La route raboteuse continuait à descendre. Nous la distinguions malgré la neige accumulée. Au bout d'un instant, le professeur me fit signe et je me levai pour aller le rejoindre. Il avait trouvé un endroit admirable, une sorte d'excavation dans le roc, avec une entrée semblable à un vestibule entre deux avancées. Il me prit la main et m'y fit pénétrer. « Voyez, dit-il, vous serez en sûreté. Et si les loups viennent, je pourrai les affronter, un à un. » Il apporta nos fourrures à l'intérieur, aménagea pour moi un nid confortable, sortit quelques provisions et me força à y toucher. Mais je ne pus manger. Rien que d'essayer m'inspirait une telle répulsion que, malgré mon désir de lui faire plaisir, je ne pus m'y contraindre. Il parut fort triste, mais ne me fit aucun reproche. Il sortit ses jumelles de leur étui et, debout sur le rocher, scruta l'horizon. Soudain, il s'écria « Regardez ! Madame Mina, regardez !» Je bondis et me dressai debout à côté de lui. Il me tendit les jumelles. La neige à présent tombait plus épaisse et tourbillonnait avec violence, car le vent s'élevait. Les rafales avaient cependant des moments de répit pendant lesquels je pouvais voir à bonne distance. De la hauteur où nous nous trouvions se découvrait un vaste horizon. Dans le lointain, au-delà de la longue plaine neigeuse, je pouvais distinguer la rivière, déroulant comme un ruban les courbes et méandres de son cours. En face de nous, et pas bien loin, de fait si près que je m'étonnais que nous n'en eussions rien vu plus tôt, venait un groupe d'hommes montés qui allaient bon train. Au milieu du groupe avançait un chariot, un long camion de roulage qui tanguait comme un chien qui fait aller la queue à chaque inégalité de la route. Ce groupe se détachait si nettement sur la neige que je reconnaissais parfaitement à leurs vêtements des paysans ou des bohémiens. Sur le chariot se trouvait un grand coffre rectangulaire. Mon cœur bondit en le voyant, car je sentais approcher le dénouement. Bientôt, le jour allait tomber, et je savais trop bien que, dès le coucher du soleil, la chose qui en ce moment y était enfermée retrouverait sa liberté et, sous une forme quelconque, échapperait à toute poursuite. Dans ma terreur, je me retournai pour regarder le professeur, mais je vis avec consternation qu'il avait disparu. Un instant après, cependant, il était à mes pieds, ayant décrit autour du rocher un cercle analogue à celui qui nous avait protégés la nuit précédente. L'ayant terminé, il s'assit à mon côté en disant « Du moins, ici n'aurez-vous rien à craindre de lui. » Il me reprit les jumelles et, profitant de l'accalmie suivante qui laissait libre l'horizon devant nous, il ajouta « Voyez, il se hâte, il fouette les chevaux et vont le plus vite possible. » Après une pause, il poursuivit d'une voix sourde « Il lutte de vitesse avec le soleil. Peut-être arriverons-nous trop tard. Que la volonté de Dieu soit faite. » Une nouvelle rafale effaça tout le paysage, mais fut de courte durée, et une fois encore, les jumelles explorèrent la plaine. Alors vint un cri, soudain. « Regardez ! Regardez là-bas ! Deux cavaliers suivent à toute vitesse, venant du midi. Ce sont sûrement Quincy et John. Prenez les jumelles, regardez tout de suite, avant que la neige revienne. » Je regardai. Ces deux hommes, en effet, pouvaient être le docteur Seward et Mr. Morris. J'étais sûre, en tout cas, qu'aucun d'eux n'était Jonathan. Mais en même temps, je savais que Jonathan n'était pas loin. Un peu plus au nord de l'endroit où se trouvaient les deux cavaliers, j'aperçus alors deux autres hommes qui galopaient à bride abattue. Aussitôt, je reconnus Jonathan et je supposai naturellement que l'autre était Lord Godalming. Eux aussi avaient pris en chasse le char et son escorte. Lorsque je le dis au professeur, il lança un « hurrah » digne d'un écolier, et après avoir regardé attentivement jusqu'à ce qu'une rafale bouchât la vue, il posa son fusil Winchester, prêt à servir, contre l'avancée à l'entrée de notre abri. « Ils convergent tous vers le même point, » dit-il. « Le moment venu, nous aurons les bohémiens tout autour de nous. » Je préparai mon revolver, car tandis que nous parlions, le hurlement des loups s'était rapproché et accru. Une nouvelle accalmie nous permit de regarder de nouveau. Étrange spectacle que celui de ces lourds flocons tombant si près de nous, tandis que le soleil au loin gagnait en éclats en descendant derrière les lointains sommets. En balayant l'horizon avec les jumelles, je distinguais ça et là des points noirs qui se déplaçaient par groupes de deux, trois ou davantage. Les loups se rassemblaient pour la curée. Chaque minute de notre attente nous semblait un siècle. Le vent soufflait maintenant par rafales violentes, chassant furieusement la neige et l'accumulant autour de nous en bancs circulaires. Parfois, nous ne distinguions plus notre bras étendu. Mais parfois aussi, quand le vent balayait nos environs en grondant sourdement, il clarifiait l'espace au point de nous laisser découvrir les lointains. Depuis si longtemps, nous étions habitués à surveiller le coucher et le lever du soleil que nous en savions le moment à une seconde près. Et nous savions que dans peu de temps, il allait disparaître. Sans nos montres, nous n'aurions jamais cru qu'il s'était passé moins d'une heure depuis que nous étions là, à guetter dans notre abri rocheux les trois groupes qui s'avançaient dans notre direction. Le vent avait redoublé, venant plus constamment du nord. Il semblait avoir écarté de nous la neige, qui ne tombait plus, si ce n'est par brèves rafales. Nous distinguions maintenant nettement les membres de chaque groupe, les poursuivis et les poursuivants. Les premiers semblaient ne pas s'apercevoir qu'on leur donnait la chasse, ou du moins ne s'en point soucier. Et cependant, ils forçaient l'allure, tandis que le soleil descendait vers les crêtes. Tandis qu'ils se rapprochaient, le professeur et moi, nous nous tenions blottis derrière notre rocher, nos armes prêtes. Il était visiblement décidé à ne pas les laisser passer. Aucun d'eux ne semblait soupçonner notre présence. Deux voix brusquement crièrent « Halte !» L'une était celle de mon Jonathan, rendue aiguë par l'émotion. L'autre, celle de Mr. Morris, avait lancé cet ordre avec une calme résolution. Même sans comprendre les paroles, les bohémiens ne pouvaient se méprendre sur le ton, en quelque langue que ce fût. Ils retinrent instinctivement leurs chevaux, et aussitôt, Lord Godalming et Jonathan furent sur eux d'un côté, le docteur Seward et Mr. Morris de l'autre. Le chef des Tziganes, un splendide garçon qui, sur son cheval, semblait un centaure, leur fit signe de reculer et, avec colère, jeta à ses compagnons l'ordre d'avancer. Ils lâchèrent la bride à leurs chevaux, qui firent un bond en avant, mais les quatre hommes braquèrent leurs fusils et leur commandèrent de s'arrêter, de façon telle qu'ils ne pouvaient se méprendre. Au même moment, le docteur Van Helsing et moi nous sortîmes de derrière le rocher, nos armes dirigées vers eux. Se voyant encerclés, ils serrèrent les brides et s'arrêtèrent. Leur chef se tourna vers eux et leur dit un mot, sur quoi chacun prit son arme, couteau ou pistolet, et se tint prêt à l'attaque. Le tout se dénoua en quelques minutes. Le chef, d'un mouvement rapide, dégagea son cheval et l'amena en tête, et, montrant le soleil, maintenant tout près des cimes, et puis le château, dit quelque chose que je ne pus comprendre. En réponse, chacun de nos quatre alliés sauta de son cheval et s'élança vers le chariot. La vue de Jonathan dans un tel danger aurait dû me faire trembler, mais l'ardeur de la bataille me possédait, aussi bien que les autres. Je n'éprouvais aucune crainte, seulement un désir sauvage, passionné d'agir. Devant nos mouvements rapides, le chef des Bohémiens donna un nouvel ordre. Ils se groupèrent aussitôt autour du char, en une sorte d'entreprise désordonnée, se bousculant dans leur ardeur à exécuter son ordre. Au milieu de cette mêlée, je voyais Jonathan d'un côté, Quincy de l'autre, se frayer un chemin vers le char. Il leur fallait à tout prix terminer leur tâche avant le coucher du soleil. Rien ne semblait capable de les arrêter, ni même de les gêner. Ses armes braquées, l'éclat des couteaux, les hurlements des loups, ils ne semblaient pas même s'en aviser. L'impétuosité de Jonathan et sa volonté visiblement irréductible parurent intimider ceux qui lui tenaient tête. Ils cédèrent instinctivement et lui livrèrent passage. Une seconde lui suffit pour bondir sur le char, pour saisir avec une vigueur incroyable le grand coffre et le lancer par-dessus bord sur le sol. En même temps, Mr. Morris avait forcé le passage de son côté. Pendant que le souffle coupé, je suivais Jonathan du regard. J'avais vu Mr. Morris pousser désespérément son avance. Les couteaux des Tziganes l'entouraient d'éclairs, tandis qu'il se frayait un passage et lui infligeait des coups qu'il parait avec son couteau de chasse. Je crus d'abord que lui aussi était en sûreté. Mais lorsqu'il s'élança vers Jonathan, qui avait sauté du char, je vis sa main gauche se crisper sur son flanc et le sang jaillir entre ses doigts. Malgré cela, il continua. Et lorsque Jonathan, avec l'énergie du désespoir, attaqua un côté du coffre pour en déclouer le couvercle avec son grand couteau coucri, il s'en prit rageusement à l'autre avec son coutelas. Sous l'effort des deux hommes, le couvercle céda peu à peu. Les clous s'arrachèrent avec un brusque gémissement et ce qui fermait le coffre fut lancé à terre. Se voyant menacé par les fusils et à la merci de Lord Godalming et du docteur Seward, les bohémiens avaient renoncé à toute résistance. Le soleil était très bas et les ombres sur la neige étaient longues. Je vis le comte étendu dans le coffre, sur le sol. Des parcelles de bois avaient volé sur le corps lorsque la caisse avait été lancée à bas du char. Le comte était mortellement pâle, semblable à une image de cire. Ses yeux rouges avaient l'affreux regard vindicatif que je ne connaissais que trop bien. Comme je le regardais, ses yeux aperçurent le soleil déclinant, et son regard haineux eut une lueur de triomphe. Mais à la seconde même surgit l'éclat du grand couteau de Jonathan. Je jetai un cri en le voyant trancher la gorge. Et au même moment, le coutelas de Mr. Morris pénétra en plein cœur. Ce fut comme un miracle. Oui, devant nos yeux, et dans le temps d'un soupir, le corps tout entier se réduisit en poussière et disparut. Pour la joie de ma vie entière, au moment de la dissolution suprême, une expression de paix se répandit sur ce visage où jamais je n'aurais cru que pût apparaître rien de tel. Le château de Dracula se détachait à présent sur le ciel rouge, et la lumière du couchant dessinait chaque pierre de ses créneaux rompus. Voyant en nous la cause de l'extraordinaire disparition du mort, les bohémiens firent demi-tour et, sans un mot, s'enfuirent, comme si leur vie en dépendait. Ceux qui n'étaient pas montés sautèrent sur le chariot, en criant aux cavaliers de ne pas les abandonner. Les loups, qui s'étaient retirés à bonne distance, suivirent leurs traces, nous laissant seuls. Mr. Morris était tombé sur le sol, appuyé sur un coude, serrant de la main son flanc, d'où le sang jaillissait toujours entre ses doigts. Je courus à lui, car le cercle sacré avait cessé de m'enfermer. Les deux médecins firent de même. Jonathan s'agenouilla derrière lui, et le blessé laissa tomber sa tête sur son épaule. Avec un faible effort, il prit en soupirant ma main dans celle des siennes qui n'était pas souillée. Mon angoisse devait se refléter sur mon visage, car il me sourit en disant « Je suis trop heureux d'avoir pu servir à quelque chose. Oh Dieu !» s'écria-t-il tout à coup en se redressant à grand-peine pour me désigner. Ceci, faut bien que je meure. Voyez, voyez. Le soleil, maintenant, rasait la crête, et ses feux rouges tombaient sur mon visage, qui était éclairé d'une lumière vermeille. D'un mouvement spontané, les hommes tombèrent à genoux. Et un grave « Amen » leur vint à tous, tandis qu'ils suivaient du regard le doigt du mourant qui disait « Grâce soit rendue à Dieu. Tout ceci n'a pas été vain. Voyez, la neige n'est pas plus pure que son front. La malédiction est effacée. » Et, à notre immense chagrin, il mourut, toujours souriant, silencieusement, en parfait gentleman.
Note. Voilà 7 ans que nous avons passé à travers les flammes, et nous sommes quelques-uns à jouir d'un bonheur qui, pensons-nous, vaut les souffrances qu'il a coûtées. Notre fils est né au jour anniversaire de la mort de Quincy Morris. Joie de plus pour Mina et moi. Elle garde, je le sais, la secrète conviction que quelque chose de l'esprit de notre héroïque ami a passé en notre enfant. Nous lui avons donné les noms de tous ceux de notre petit groupe, mais c'est Quincy que nous l'appelons. L'été dernier, nous avons fait un voyage en Transylvanie et traversé la région qui fut et qui reste emplie pour nous d'ineffaçables et terribles souvenirs, Nous ne pouvions croire que les choses que nous avions vues de nos propres yeux, entendues de nos oreilles, eussent été vivantes et réelles. Toute trace en avait été effacée, mais le château était toujours debout, dominant une étendue de désolation. Au retour, nous avons reparlé du vieux temps vers lequel nous pouvons tous regarder sans désespoir, car Godalming et Seward sont tous deux mariés et heureux. Je repris les papiers que je gardais dans le coffre-fort depuis notre premier retour, il y a si longtemps. Chose curieuse, dans l'ensemble des témoignages qui composent le dossier, c'est à peine s'il y a une pièce authentique. Rien que des dactylogrammes, sauf le dernier agenda de Mina, de Seward et le mien, et le mémorandum de Van Helsing. Le souhaiterions-nous que nous ne pourrions demander à personne d'accepter ces textes comme l'épreuve d'une histoire si fantastique? Van Helsing avait pris notre fils sur ses genoux et il a tout résumé en disant « Qu'avons-nous besoin de preuves? Nous ne demandons à personne de nous croire. Ce garçon saura un jour quelle femme courageuse est sa mère. Déjà, il connaît quelles sont sa douceur et son amour. Il comprendra plus tard que quelques hommes l'ont aimé et pour son salut ont beaucoup posé. » Jonathan Harker.